VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel. Dans 10 minutes, l'Amérique et vous avec John Lindon. Mais tout d'abord, le journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Les manifestations contre les violences policières se sont poursuivies ce week-end dans plusieurs villes du pays. Les détails avec Jacques Aristide.
De San Francisco à Atlanta, en passant par Phoenix et Memphis, des protestataires sont de nouveau descendus dans les rues à l'appel notamment du mouvement Black Lives Matter, traduisez les vies noires comptent. Des interpellations ont eu lieu dans plusieurs villes. Les manifestants voulaient rendre hommage à deux Africains-Américains abattus par des policiers la semaine dernière à Baton Rouge, en Louisiane, et à Saint-Paul, dans le Minnesota, des incidents qui ont été filmés par des témoins. Un autre noir a succombé après avoir été touché par des tirs policiers samedi à Houston, au Texas. Alva Braziel portait une arme de poing qu'il a refusé de lâcher, selon la police. Hier, depuis Madrid, en Espagne, le président Barack Obama a renouvelé ses appels au calme en précisant que les attaques contre les policiers desservaient la cause de ceux qui s'inquiètent légitimement des carences du système judiciaire américain. Il a écourté son voyage pour se rendre demain à Dallas, où il s'exprimera lors d'une cérémonie œcuménique. Le vice-président Joe Biden sera également présent, tout comme l'ancien président républicain et ancien gouverneur du Texas, George W. Bush, qui devrait prendre la parole avec son épouse Laura.
L'Afrique maintenant, au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a ordonné aujourd'hui un cessez-le-feu après 3 jours de combats meurtriers dans la capitale Djouba entre forces loyalistes et ex-rebelles. Les précisions de Claire Morin-Gibour.
Le président Salva Kiir a ordonné à ses troupes aujourd'hui un cessez-le-feu. Le vice-président Riek Machar, imitant son rival sur une radio locale, a aussi appelé ses soldats à cesser les combats. Depuis vendredi, les affrontements auraient fait près de 300 morts. Des chars, des hélicoptères de combat et l'artillerie lourde ont crépité pendant 4 jours à Djouba, la capitale. Des milliers de civils apeurés ont dû fuir les quartiers les plus touchés. Près de 7000 ont trouvé refuge dans un camp de l'ONU. D'autres se sont abrités dans les églises. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé au Conseil de sécurité de décréter un embargo immédiat sur les armes et de nouvelles sanctions ciblées contre les fauteurs de troubles. Ces nouvelles violences coïncident avec le 5e anniversaire de l'indépendance du plus jeune pays au monde.
La République centrafricaine est toujours en danger avec des régions entières contrôlées par des groupes armés. Tel est l'avertissement lancé par le président Faustin Archange Touadéra en faisant ce week-end le bilan de ses 100 premiers jours au pouvoir. Dans son discours retransmis par les médias, le président Touadéra a également demandé la levée totale de l'embargo sur la commercialisation des diamants qui, a-t-il dit, a privé l'État centrafricain d'énormes ressources et encouragé le trafic illicite. Écoutons la réaction de Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique, l'USTC.
La situation s'améliore un peu, mais l'attente de toute la population, y compris les travailleurs, c'est la question sécuritaire. Cette question sécuritaire-là nous préoccupe tous. Or, jusque-là, nous ne voyons pas encore un début de solution par rapport à ça. Quand bien même il y a des discussions avec les groupes armés en sourdine, mais nous constatons que c'est encore le statu quo, puisque ces derniers temps, ici et là, il y a eu des cas d'assassinat, il y a eu des cas de séquestration. Ça nous inquiète. Bon, maintenant, la reprise du travail sur l'ensemble du pays est conditionnée par rapport à la question sécuritaire. Il y a des zones aujourd'hui pratiquement où les fonctionnaires, agents de l'État, il leur est difficile d'aller, à l'exception quelque peu des enseignants et des travailleurs de la santé, mais les autres secteurs, c'est difficile.
Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique, l'USTC, jouait à Bangui. Politique au Tchad, l'opposition tchadienne a exhorté la communauté internationale dimanche à reconnaître la nature dictatoriale du régime du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990, qualifiant de passage en force sa réélection en avril. Le front de l'opposition pour la République, le changement et l'égalité, force, dénonce dans un communiqué une situation sociale explosive et réclame une nouvelle élection libre, transparente et crédible sous les auspices de la communauté internationale. Au micro de Timothée Donangmaï, les explications de Mahamat Barbéchir, le coordonnateur national de la coalition Force.
Nous appelons tout le pays à condamner ce coup d'État électoral, ce passage en force qui s'est soldé par la mort d'ailleurs de nos concitoyens. Des militaires ont été torturés, tués parce qu'ils ont voté pour l'opposition. C'est quelque chose qui n'a jamais vu ailleurs dans aucun des pays où il y a eu des élections.
Alors, de quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour amener le changement au Tchad?
D'abord, c'est notre peuple, la détermination du peuple tchadien, la détermination de la jeunesse patriotique tchadienne. Les Tchadiens aujourd'hui sont à bout. Ils veulent le changement et ils veulent que ce changement puisse passer d'abord par l'alternance et par la voie pacifique. L'État n'a connu que la violence comme mode de résolution des problèmes. Et aujourd'hui, notre peuple a une certaine maturité politique et ils sont capables de prendre leur destin amené par la voie pacifique.
Mamad Bar Béchir, coordonnateur national de force, une coalition de l'opposition tchadienne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, un élu de la région de Mopti, dans le centre du pays, a abattu ce lundi par des hommes armés non identifiés. L'adjoint au maire de la commune de Rouro, Modi, a été tué alors qu'il se trouvait dans son champ. Le point avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
Deux individus enturbanés et non identifiés ont tué un responsable de la commune de Rouro, Modi ce lundi. Il s'agit de Kola Hussein Dia, 58 ans, enseignant de profession et premier adjoint au maire. Il était dans son champ accompagné d'un de ses frères. Aux alentours de 13h-14h, deux individus sont arrivés à moto sur les lieux. Immédiatement, ils lui ont tiré à bout portant, mais son frère a été épargné. Après leur forfait, les auteurs de ce crime ont pris la fuite. La population a fait appel à la gendarmerie pour faire le constat sur place. Un règlement de compte ou un acte terroriste, la suite des enquêtes pourrait nous édifier sur leur motivation. Mamadou Bokoum à Mopti pour VOA Africa.
Au Nigeria, des éleveurs peuls ont tué des dizaines de villageois ces deux dernières semaines dans l'état de Benue, dans le centre du pays. Théâtre de conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, les précisions d'Idriss Fall.
Taïeb Aguerzoua, porte-parole du gouvernement régional, a affirmé que des dizaines de personnes ont été tuées depuis deux semaines par des éleveurs peuls dans au moins 10 communautés de l'état de Benue. Les télévisions locales avancent le chiffre de 81 victimes dans les régions de Logo et Oukoum. Moses Yamou, porte-parole de la police de l'État, a confirmé ces tueries tout en assurant que le calme est revenu. En février, des centaines de personnes ont été tuées dans la région d'Agatou. Ces affrontements faisaient suite au meurtre d'un chef peul et au vol de son bétail. Les éleveurs peuls sont des nomades musulmans. Depuis plusieurs années, ils s'opposent aux agriculteurs locaux qui sont chrétiens à propos de droits de pâturage ou de partage des ressources hydrauliques.
Israël renoue officiellement avec l'Égypte. Sameh Choukri, chef de la diplomatie égyptienne, est en visite dans l'État hébreu. La première du genre en 9 ans, il a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour tenter de relancer les négociations israélo-palestiniennes. Saloua Jafari.
Une visite inédite et elle fait suite à la proposition en mai dernier par le président égyptien Abdel Fattah Sisi d'aider à relancer le processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis plus de 2 ans. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été le premier à s'en réjouir.
Je me réjouis de la récente offre du président Sisi pour faire avancer la paix avec les Palestiniens et une paix plus large dans notre région. Aujourd'hui, je demande à nouveau aux Palestiniens de suivre l'exemple courageux de l'Égypte et de la Jordanie et se joindre à nous pour des négociations directes.
The visit comes in the context of President el-Sisi's vision.
Le ministre égyptien, pour sa part, a souligné une situation en constante détérioration sur le terrain et la nécessité de créer des conditions pour un dialogue direct. Le jour même de la visite du diplomate égyptien, le gouvernement israélien a annoncé avoir débloqué près de 13 millions de dollars pour les colonies juives de Kiryat Arba, Hébron, en Cisjordanie occupée, après une série d'attaques palestiniennes. Par ailleurs, un tribunal israélien a condamné lundi un Palestinien à la prison à vie pour avoir perpétré une attaque meurtrière à l'arme à feu et au couteau dans un autobus de Jérusalem en octobre dernier.
Et pour terminer le sport, accueil triomphal à Lisbonne pour l'équipe nationale du Portugal ce lundi après sa victoire sur la France hier en finale de l'Euro 2016 de football. Merci de votre attention. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite,